Donc, on avait vu dans le quatrième chapitre les versets 1 à 11. Les versets 1 à 6, on peut donner comme titre de ce petit sous-chapitre
bonsoir.
Bien,
bonsoir.
Bonsoir. Souffrir dans sa chair, hein, les versets 1 à 6. Et les versets 7 à 11, l'urgence des temps de la fin. Donc voilà, hein, ce qu'on avait regardé il y a un mois en arrière. Et puis, nous allons donc continuer le chapitre 4. Et on va lire donc les versets 12 à 19. 1 Pierre 4, 12 à 19.
Alors, tu veux qu'on
commence ? Oui, oui. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée.
Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, on y va.
Oui, oui.
Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire.
Tu peux... Pierre 4.
15. Pierre 4, verset 15.
Merci.
Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait de mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu de cette situation.
En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur?
Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.
Vous êtes à quel verset?
On a fini le chapitre 4.
12 à 19.
On va commencer l'étude de 1 Pierre 4, 12. Donc, le sous-chapitre ici, on peut lui donner comme thème la réjouissance au sein de la souffrance. Pourquoi? On verra point 1, parce que elle éprouve notre foi. Point 2, parce qu'elle est une participation aux souffrances de Christ. Et point 3, parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Donc, bien sûr, hein, vous savez, mon Dieu, le thème de la souffrance, c'est un thème, on n'en a jamais fini. Hein, c'est un thème vraiment énorme dans les Écritures. Mais ici, on voit que Pierre a ciblé par rapport aux souffrances ces trois points. On peut se réjouir au sein de la souffrance. Point 1, parce qu'elle éprouve notre foi. Point 2, parce qu'elle est une participation aux souffrances de Christ. Et point 3, parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Donc, on va commencer en voyant le point 1, parce qu'elle éprouve notre foi. Ne soyons pas surpris si nous traversons la fournaise, car cela est utile. La fournaise éprouve notre foi. Ainsi comme le dit le verset 6, nous puissions témoigner que nous vivons selon Dieu quant à l'Esprit. On est ici sur cette terre pour vivre aussi une mise à l'épreuve et pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit, pas seulement dans les jours où il fait beau, mais aussi dans les jours où il pleut, hein, dans les temps difficiles. Être conduit par l'Esprit, c'est pas quand tout flotte, quand tout plane seulement, Bien sûr, hein, le Saint-Esprit, il nous réjouit, il nous comble de sa présence, mais il est aussi là comme le Consolateur, aussi il est celui qui nous guide dans les temps difficiles. Il nous est dit qu'il faut se réjouir, ça c'est le verset 13, des souffrances auxquelles nous avons part. Pourquoi ? Parce que c'est une participation aux souffrances du Christ. Et Paul s'exprimera ainsi aussi dans ce thème-là, ça c'est, je vous lis juste, c'est Colossiens 1, verset 24. « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » La souffrance que nous pouvons endurer pour le Christ, c'est une souffrance en fait pour le corps du Christ, hein, pour l'Église, et ce n'est pas une souffrance pour nous-mêmes, simplement. Il y a une souffrance qu'on peut traverser, qu'on peut vivre, c'est quand même un peu un mystère, hein, mais c'est les souffrances de l'Église. C'est les souffrances de l'Église qui vit des temps difficiles. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans un pays où règne la persécution. Hein. Ça, c'est, on s'imagine très facilement qu'en effet, la souffrance que Christ n'a pas eue, une Église qui vit dans un pays où la persécution est intense, alors clairement, elle participe aux souffrances du Christ. Mais nous, certaines de nos souffrances, certaines des choses difficiles qu'on endure au travers de la foi, eh ben, c'est aussi pour l'Église, c'est aussi pour le bien de l'Église. Et c'est même presque normal hein, que de souffrir pour l'Église, qu'un chrétien qui vit sincèrement sa foi va aussi traverser des temps difficiles de cet acabit. Ne soyez pas surpris hein, de la fournaise qui se manifeste au milieu de vous. Au contraire, réjouissez-vous. Et parce que nous avons part aux souffrances du Christ. Alors, on ne va pas chercher non plus à être outragé à tout prix pour la cause du Seigneur. Hein. Je ne sais pas si... bon, je donne un exemple vraiment un peu direct, quoi. Mais s'il y a une gay pride ici à Neuchâtel qui se manifeste, et puis on va crier à tue-tête, « Repentez-vous ou périssez !» Hein, c'est peut-être, bon voilà, bon si le Seigneur t'appelle à ça, peut-être, je ne sais rien, je ne peux pas juger. Mais on doit aussi avoir un peu une sagesse dans notre rapport avec la société.
Il y a eu à Neuchâtel.
Il y a eu une gay pride, d'accord, je ne savais pas.
C'est vrai.
J'y étais pas en tout cas pour crier la repentance, mais
ouais. Moi non plus.
Ouais. Dernièrement?
Non, il y a déjà
quelques temps en arrière.
Deux ans, trois ans, quatre
okay.
ans,
je sais pas. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que, voilà, hein, de la manière dont on va annoncer l'Évangile aussi, on ne doit pas chercher à être outragé pour être outragé. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une certaine liberté pour annoncer l'Évangile. On peut faire des demandes aussi. Ou bien on peut penser aussi ce qu'ont vécu nos amis des Gédéons. Hein, mais ils le font dans un cadre. Et puis, vu qu'ils le font dans un cadre, ben, le cadre les protège quand même. Et puis, ils ne vont pas faire n'importe quoi pour ne pas empêcher la suite du ministère. Hein, on doit toujours aussi un petit peu réfléchir à ça lorsqu'on s'implique au niveau de l'évangélisation, de ne pas provoquer une situation qui pourrait ensuite bloquer l'annonce de l'Évangile. On doit quand même avoir une certaine sagesse. Le but, ce n'est pas d'être outragé pour être outragé. Alors, verset 15. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Dans ce monde, le Christ nous a jamais dit qu'on n'aurait pas de souffrance, hein? Bien au contraire. La souffrance existe dans ce bas monde. On n'est pas comme les bouddhistes. Les bouddhistes, ils soi-disant, hein, par leur méditation, par leur yoga et tout ça, ils arrivent à se mettre dans un état un peu de quasi de transe secondaire où la souffrance, en tout cas c'est un thème très général dans le bouddhisme, moi je n'ai pas étudié spécialement le bouddhisme, mais je l'ai quand même vu un peu dans le cadre des cours de théologie, le thème de la souffrance est très présent dans le bouddhisme. Et en fait, ils doivent arriver, le bouddhiste doit arriver à ce que la souffrance n'ait plus aucune atteinte dans sa vie. Hein. C'est comme si la souffrance devient secondaire, parce que tant que vous mettez une importance sur la souffrance, ça veut dire que vous n'êtes pas encore suffisamment spirituel, vous n'êtes pas encore suffisamment détourné des choses de ce monde. Et c'est vrai que vous voyez des bouddhistes, hein, des fois ils sont vraiment un peu planants. Hein. On voit des hommes qui sont dans une certaine sérénité et puis qu'on a l'impression que rien ne peut les affecter. Voilà, c'est ce que va chercher un bouddhiste par son yoga, par ses méditations, etc. etc. Il se désincarne de ce monde quelque part, le bouddhiste. Et nous, on n'est pas appelés à se désincarner de notre chair, ni du monde. Je reprends juste là Jean 17, versets 15 et 16. Je donne un petit peu de matière comme ça, puis après on pourra discuter ensemble. Jésus qui dit ceci, Jean 17, 15 et 16, vous connaissez bien ce passage. Hein. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas dans le monde. Hein. En tant que chrétien, on n'est pas hors du monde, mais Jésus prie afin qu'on puisse être préservé du monde et pouvoir vivre une vie de foi qui l'incarne, lui, qui incarne notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose de désincarné, ce n'est pas qu'on essayerait de se mettre complètement au retrait de la souffrance et que la souffrance n'aurait plus aucune atteinte dans notre vie. Non, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Hein. Et là, il est dit même, bienheureux êtes-vous si vous prenez part aux souffrances du Christ. Alors là, ce serait intéressant de débattre avec un bouddhiste parce que cette notion-là de la souffrance, un bouddhiste, il ne l'a pas. Hein. Comment ça, être bienheureux dans la souffrance? Non, justement, on doit s'en détacher complètement, nous dirait, je pense, un bouddhiste. Il aurait une philosophie ici complètement différente. Donc, je pense que ce constat, on peut tous le faire. Hein, la souffrance dans ce bas monde, elle existe. Alors, soit on souffre pour le péché, ou soit on souffre pour la cause du Christ. Quelque part, on peut choisir quelle souffrance on a envie de vivre. Parce que c'est pas par le fait qu'on choisit de suivre Jésus-Christ qu'on va plus souffrir. On va plus souffrir des conséquences du péché, hein, par la grâce du Seigneur. Mais la souffrance, elle va quand même encore être là, mais elle prendra une autre forme, et, une autre orientation et une autre portée même, hein, parce que nous sommes participants. Au travers de cela aussi, à la gloire à venir de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je peux juste dire une chose?
Oui, volontiers, oui.
Là, on part dans la discipline correctrice de Dieu, hein, donc dans les souffrances dues au péché, dues à notre condition de pêcheurs, etc. Donc avant, on était plutôt dans la persécution, comme tu l'as dit, effectivement, donc là, pour le témoignage qu'on doit apporter dans ce monde. Ouais. Mm. Je m'arrête là, mais j'aurais d'autres choses à dire, mais je ne veux pas trop t'interrompre.
Oui, alors c'est vraiment de cette manière que Pierre commence le chapitre 4, hein, si on revient juste un rembobine un petit peu en arrière. Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'en est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, etc. etc. Donc, par le passé, on a marché dans la chair, et parce qu'on a marché dans la chair, Alors on en a payé les conséquences et on en a souffert aussi, inévitablement. Bon, des fois la souffrance elle est peut-être retardée, c'est peut-être pas tout de suite qu'on souffre, mais même maintenant que nous sommes en communion avec le Seigneur, quand on a péché, on le sait aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit il nous titille, puis il nous dit, mais Alain, attends, là, ce que tu fais, ce n'est pas en ordre devant le Seigneur. Tandis que quand on marchait selon la chair, bon, ben, on entrait dans les convoitises, mais on en souffrait quand même, parce qu'il y a quand même des conséquences si on s'éloigne des lois du Seigneur. Et aujourd'hui, si on souffre dans la chair, c'est pour la cause du Christ. C'est pour vivre selon l'Esprit.
Pour notre cause aussi.
Pour
notre cause aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que la souffrance, alors, elle peut aussi être... Bon, ça, ce n'est pas directement abordé dans ce que Pierre partage ici. La souffrance peut alors aussi être avoir une dimension de correction, hein. Parce que si on s'éloigne du Seigneur, Dieu en effet peut nous reprendre, hein, et puis voilà. Mais ce que Pierre aborde plus ici, c'est aussi le thème de ce que la souffrance, elle nous prépare à la gloire de son retour, hein. Elle travaille nos cœurs aussi dans cette direction. Le but, c'est vraiment de nous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ et que qu'on puisse être prêt pour le jour de son retour. Verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Magnifique. Et ben quelque part là, il faut que Dieu travaille nos cœurs. Et c'est peut-être pas forcément la première attitude qu'on aura, la première pensée qu'on aura sur notre cœur au moment où on est outragé. Mais quand même, hein, Dieu travaille nos émotions, Dieu travaille nos pensées, Dieu travaille nos attitudes. Et au moment où on est outragé, ben quelque part, on doit aussi se dire, mais merci Seigneur. Il faut croire que je dérange l'ennemi aussi, hein, quelque part. Parce que si on ne cherchait pas à venir me donner un mauvais témoignage, c'est que peut-être je suis tout le temps en train de dire les bonnes nouvelles que les gens ont envie d'entendre. On peut repenser aux paroles de Jésus qui a dit, hein, mais malheur à vous si les gens vous disent que du bien. Parce que c'est de cette manière-là qu'Israël a accueilli les faux prophètes. Hein. Mais bienheureux êtes-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal. Hein. C'est ainsi que les prophètes ont été accueillis en Israël.
Si on prend les passages insultés, ou on pourrait dire martyrisés aussi, c'est si on voit en Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient, c'est là que les chrétiens pour le Seigneur passent. Ce passage-là, il le passe réellement. Nous, en Europe, on a moins d'attaques relativement à part les terroristes, entre guillemets. C'est quoi? C'est l'indifférence polie ou même impolie. Parce qu'il y a ces deux facteurs. Et ça peut blesser des fois plus qu'un coup de poing ou je sais pas quoi. Quand les gens savent qui vous êtes, comment vous vivez et qu'ils sentent que peut-être ça pourrait être un modèle, les gens, ils sont complètement indifférents. Et il y a deux indifférences qu'on peut vous témoigner. Soit l'indifférence polie, en vous saluant « Bonjour, comment vas-tu Philippe ?» et ça s'arrête là. Et puis impolie, c'est quand on t'ignore complètement. Alors, et ça, c'est aussi une souffrance psychique. Elle n'est pas physique, mais elle est psychique. Je ne sais pas si vous l'avez des fois ressenti, mais en tous les cas, j'ai ressenti ça. Les gens, d'une manière polie ou impolie, vous ressentez cette... Il y a quelque chose, ils vous évitent, quoi. Les gens ne viennent pas vers vous pour essayer d'en savoir plus ou avoir un témoignage supplémentaire. Au contraire, ils vous évitent. Et c'est une espèce d'indifférence. Et ça peut aussi froisser, blesser, comme quelqu'un qui serait insulté ou bien je dirais pas flageller avec 49 coups de fouet, ça c'est autre chose, mais des fois, psychiquement, moralement, on peut être aussi un tout petit peu, parce que vous vous sentez, tu te sens un peu à la longue mise à l'écart, tu vois, alors que tu fais rien de mauvais ou d'anormal qui pourrait être répréhensible, non, mais c'est le comportement des gens du monde. Je sais pas si vous avez subi ça, mais moi je le ressens.
Moi j'ai subi mon camarade qui avait mon âge, il me disait de temps en temps, quand il avait un verre, il me disait, en tout cas c'est pas moi qui vais être pris sur un toit d'église qui brûle. Alors là, bon. Ouais, ben bon, ouais, peut-être bien, je me rappelle pas ce que j'ai répondu, mais je me dis, eh ben ce monsieur, il est dans une maison de retraite, il a mon âge. Ouais, il est tombé bien bas. Ouais, il était complètement perdu, j'entends. J'ai dit, oh Seigneur, pardon. Parce que j'étais plutôt à le critiquer que lui aider. Mais quand on te fait tout, de temps en temps.
Ah, aujourd'hui, ça ne manque pas. Hein. C'est vrai qu'on est dans un monde où la foi est bien critiquée. Hein. Et puis, bon, ben. Si les personnes réagissent comme ça, mais des fois il faut peut-être pas s'arrêter là-dessus parce que c'est un peu comme un adolescent. L'adolescent des fois il titille pour voir, il lance des petites pointes pour voir comment tu vas réagir. Et puis des fois on serait peut-être surpris en allant un peu plus loin dans la discussion. Tout à coup il y a les bouches et les cœurs qui s'ouvrent. On sait pas, hein. On sait pas. Il faut pas forcer non plus. Mais des fois on peut être surpris en allant un peu plus loin parce que Des fois, peut-être les personnes aussi sont un peu mal à l'aise par rapport au thème de la foi, à la spiritualité, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on a réduit la spiritualité à plus grand chose, ou alors juste on va voir le guérisseur ou le tireur de tarot, hein. Ça s'arrête un peu à ça. Donc on a le monde a tenu un discours vraiment très négatif par rapport à la foi chrétienne, en tenant un discours en infantilisant les chrétiens, en les ridiculisant. Alors les gens des fois ils ont aussi peut-être des blocages par rapport à la foi chrétienne. Et puis des fois ils font des choses, mais c'est pas forcément c'est pas forcément négatif, mais peut-être des fois ils manquent de tact en abordant la question parce que eux-mêmes ils sont avec plein de clichés, plein de blocages que la société leur rabat à longueur de journée. Mais je pense que Dieu peut-être voilà qu'il nous aide, hein, dans certaines circonstances, pas toujours, mais dans certaines circonstances nous donner une pensée de qui vient du Seigneur, une pensée de circonstances pour pouvoir casser la glace et avoir une parole de connaissance. Hein. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise dans cette situation? Et puis tout d'un coup, il y a peut-être juste une pensée qui nous vient à l'esprit, puis pouf, on peut aller un peu plus loin que ce gag qui nous est lancé. Et puis peut-être les gens... C'est pas qu'on va partir dans une partie de tennis à coups d'arguments chrétiens non chrétiens, chrétiens non chrétiens, chrétiens non. Hein? Non. Mais moi je pense, hein, le Seigneur, une circonstance comme ça, il peut l'utiliser. Ayons peut-être un peu de l'audace, que le Seigneur remplisse notre bouche de sa parole. Hein.
Parce que les gens nous voient vivre aussi.
Ils savent qu'on est chrétien. Notre entourage le sait.
Oui. Ouais. Ah oui.
Mais l'Occident, il faut dire une chose actuellement, plus on va de l'avant, en Occident, plus on va de l'avant, plus les catholiques et même les protestants basent sur la tradition chrétienne, mais pas par une foi vivante. Tradition, ça veut dire quoi? Quand on se marie, on va à l'église. Quand on décède, on va à l'église. Quand il y a la première communion, on va à l'église. Et puis après, c'est fini. Dès qu'après, vous essayez de rentrer en profondeur pour vivre la parole de Dieu et disséquer et aller de l'avant tout de suite, c'est pas pour eux. Eux, c'est la tradition. Mariage, on est obligé, on va par tradition à l'église, on va se marier en blanc. On essaye de se marier en blanc, même si c'est le 25e mariage. Et puis,
on bloque quand même après le 25e. Voilà,
ben, ça a
moi, c'est une belle couleur. Hein.
et puis bon, au décès, aux premières communions, mais même des fois quand vous y allez pour faire acte de présence, si c'est des amis ou des gens proches que vous allez, vous voyez que c'est très superficiel. C'est pas une foi, ils le font pas par une foi vivante et une foi profonde. Hein. Ils vont, voilà, c'est une tradition, on se marie, ben on va à l'église, on se marie, après on ressort, on jette le riz, hein, à la sortie de l'église dessus, pour avoir beaucoup de bénédictions, on met le riz qu'on leur jette dessus, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas cette volonté, cette envie de vivre la parole de Dieu, et puis ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de pratiquer, dans la foi. Beaucoup, et c'est, en Occident, ça se généralise. Je vois que ça se à une vitesse, mais... Grandir.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. On est en plein
dedans. Oui, on le vit. On est en train de le vivre.
Et puis, on parle des persécutions qu'on n'a pas, mais on est en train de les avoir avec le terrorisme.
Avec le terrorisme.
Et puis, on voit qu'il y a des gens qui sont des véritables martyrs, comme cet homme. Ce gendarme de police qui était un homme de conviction, un catholique.
Mmh. Qui a donné sa vie pour un otage.
Donc. Pourquoi on ne serait pas appelé à avoir un acte de courage comme ça? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Est-ce qu'il ne va pas y avoir tout d'un coup quelqu'un qui nous lance un cocktail molotov dans l'église? Comment est-ce qu'on réagit?
Il faut
s'attendre à ça. On est dans cette période-là.
Dans cette mouvance.
Donc, et puis, il ne faut pas dire les mauvais protestants et les mauvais catholiques.
Ah non,
parce qu'il y a des gens qui ont la foi, qui sont vraiment des gens sauvés. Alors, il faut arrêter. Il faut aussi voir, nous, les évangéliques, où on en est.
Je t'arrête juste une seconde, parce que c'est ce qu'on va avoir dans la vidéo plus tard. Non, mais tu peux continuer après, parce que c'est pas tout de suite. Mais ce que tu lances là, la question de la tradition, et puis après que tu rebondis par rapport à l'apostasie, c'est vrai que c'est tout à fait ça, que ce soit dans les milieux catholiques réformés, mais malheureusement aussi évangélique. Parce qu'on verra, et moi j'ai une vidéo là-dessus, vous verrez, c'est quand même...
Il y a des bons et des moins bons, parce
que ça questionne, hein.
Exactement. Les communautés chrétiennes, hein, qu'elles soient catholiques, protestantes.
Ce qui est aussi grave, c'est les autorités, même les plus haut placées, qui sont incrédules, et qui ont des lois antichrétiennes. Contraire carrément à la volonté de Dieu, et ça enfonce encore une fois plus l'incrédulité et le laisser aller.
C'est ce que je viens de vous dire, c'est l'évolution. Donc, je ne dis pas que tout le monde en est je ne généralise pas. Dis l'évolution actuellement en Occident va dans ce sens, malheureusement.
Quand on dit persécution, on dit aussi courage. Hein. Donc, c'est ce que tu as relevé tout à l'heure. C'est qu'il faut que le Seigneur nous revête d'un certain courage pour prendre position dans des situations. Maintenant, il y a encore une autre chose, c'est que nous, les chrétiens, s'il y a l'apostasie en Europe, c'est parce qu'on n'a pas assez vite pris position aussi, autant par la prière, le jeûne, etc. Moi, je le dis ça pour moi. Mais c'est vrai que c'est qu'on a manqué de courage, les chrétiens en général, et puis, on a laissé faire aussi, et puis on n'a pas prié, enfin bref. Et toujours est-il que les musulmans, eux, ils ont droit à tout parce qu'eux, ils prennent des positions puis ils disent « Ah, mais non, etc. » On est dans un domaine, on n'est pas entré là-dedans. Mais l'apostasie, c'est toi qui disais aussi que le Seigneur laisse peut-être les musulmans... Non, c'est Jules Taubois qui a dit ça, on m'a dit l'autre jour, que l'apostasie, ça peut aussi être justement que Dieu laisse maintenant les musulmans nous envahir pour justement nous faire réagir par rapport aux persécutions... qui viennent de plus en plus, où les autorités ne veulent plus entendre parler de la foi, mais sont absolument laxistes vis-à-vis des musulmans, ils en ont peur. Et comme ils en ont peur, et ben justement, ils manquent de courage. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent voter des lois, des trucs et tout ça, puis ils laissent de plus en plus gangréner nos sociétés par les musulmans. Je ne parle pas par l'islamisme, hein, que ce soit, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas jouer, nous dire qu'on fait de l'amalgame et tout. Les musulmans... s'ils ne sont pas éclairés, on dit qu'il y a des mollets, c'est pas vrai tout ça. Il y a les salafistes qui sont en train d'endoctriner les gens dans les mosquées, que ce soit Tariq Ramadan, que ce soit, etc., partout. Et puis, les mauvais musulmans, ils les prennent pour les endoctriner dans le salafisme, dans le pur et dur, dans le radical, dans la haine du chrétien, dans la haine de la société, dans la haine des juifs. Et on a vu aussi cette dame qui a été poignardée à 85 ans, qui est juive aussi dans son appartement l'autre jour par un fanatique de nouveau islamiste. Et il y a 2 ans en arrière, il y avait une femme aussi juive dans le même bâtiment qui était défenestrée par un même voisin qui était musulman et qui disait
c'était où ça, j'ai pas suivi.
C'était où?
À Paris vendredi. Elle a été poignardée, cette dame, parce qu'elle est juive uniquement. Aujourd'hui, tout récent,
cet après-midi à la télévision italienne, ils ont passé donc une émission où il y avait quelqu'un, un de ces qui prêche dans leur mosquée là, comment on les appelle, un imam, qui disait en italien scannare le cristiane, c'est-à-dire aller égorger les chrétiens dans sa mosquée en Italie.
Ils disent ça chez nous.
Tu te rends compte?
Ils disent ça
chez nous en Europe.
Et on les laisse.
Non, et tu les laisses dire. Voilà. Et tu les laisses dire, tu les laisses faire.
Tant qu'ils n'auront pas éradiqué ce problème de mosquée avec les imams salafistes, ben ça va continuer.
Aujourd'hui, c'était aller le gars qui prêchait, égorger les chrétiens. Tu te rends compte? Scanale, en italien, scanale, c'est-à-dire les chrétiens. Voilà. Tu te rends compte où c'est qu'on en est aujourd'hui même en Italie? Ils les laissent faire.
Ah, il y a un problème au niveau.
C'est-à-dire qu'il y a les messages sur Internet, des choses comme ça, ils savent très bien. Et puis, ils ne réagissent pas plus pour autant. Donc, il y a des aberrations.
On vit dans les... un peu... Bon, moi, je ne veux pas vous faire trop pleurer ce soir, mais on vit quand même un peu dans les temps de la fin. Et puis, il y a une réponse... Bon, après, ça, c'est un vaste sujet, mais après, on sort un peu du... Mais oui, on est dans les persécutions. Mais il y a un problème aussi au niveau des gouvernements qui sont dans une, comme il était dit, dans une attitude laxiste, qui laisse faire. Il y a plein de raisons qui amènent ici. Mais aussi, c'est un signe des temps que nous vivons. Donc, que nous n'ayons pas honte, comme il est écrit ici, si l'on souffre comme chrétien, mais plutôt que nous puissions glorifier Dieu à cause de ce nom. Je vous propose, là, on finit, comme ça on pourra finir le chapitre 4. Le verset 17... qui est le troisième point par rapport aux souffrances. Donc, le premier point, je vous le redis juste, la souffrance, elle éprouve notre foi. Le deuxième point, elle nous rend participants aux souffrances du Christ. Et le troisième point, elle nous prépare à la gloire de son retour. Et puis, il est juste dit... Avant qu'on reprenne le verset 17, c'est un peu avant, au verset 13, la deuxième partie du verset 13. « Afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Voilà, donc une raison des souffrances, elle nous prépare à la gloire du retour du Seigneur Jésus-Christ. « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est vrai que si je sais pas, l'action biblique, là à côté, il y a un attentat. Bon, mais ça pourrait aussi être nous. Mais que ce soit nous ou bien eux, ça va nous préparer à la gloire de son retour. Moi, je suis sûr que si on devait vivre quelque chose comme ça sur Neuchâtel, il y aurait peut-être même plus de monde pour le cours du baptême. Tout à coup, il y a les priorités qui changent. Quand vous êtes mis comme ça à 2 cm face à la mort, ou bien même que quelqu'un de votre famille décède, ça peut faire l'effet contraire aussi, où les gens vont claquer la porte. Mais quand même, quand vous êtes tout à coup confronté à des souffrances comme ça, je pense que tout d'un coup, on revoit nos priorités.
Parce qu'on ne sait pas si les personnes en général se rendent compte aussi.
Ouais.
Ça manque aussi.
Alors, il y a beaucoup, à l'heure actuelle, beaucoup de gens aveugles, et malheureusement aussi même dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui dorment, qui ne veulent plus entendre parler même du retour du Seigneur Jésus-Christ. Là, j'ai vu une pub pour une conférence d'un pasteur, que je ne dirai pas le nom, qui disait, mais venez Bible en main, hein, suivre ma conférence, et puis je vais vous montrer que vous n'avez rien compris par rapport à Babylone, la grande prostituée qui va tomber. Hein, vous n'avez rien compris, venez confronter mes idées à Bible en main, vous verrez qui a raison. Donc un pasteur qui croit, je sais pas, je n'ai pas été suivre son enseignement, hein, mais qui croit que Babylone, la grande, ne va pas tomber. Babylone est aussi le système commercial d'aujourd'hui. Hein, il y a, Babylone, c'est un système spirituel, religieux, politique, mais aussi économique. Hein, parce qu'ils vont pleurer sur Babylone, parce que les commerçants ne pourront plus faire affaire à cause de la chute de Babylone. Donc, moi, je ne sais pas quel est l'enseignement de ce pasteur par rapport à ça, mais je me dis, il y a quand même des chrétiens qui aujourd'hui ne se préparent plus.
Parce qu'il y a le Vatican qui est aussi comme... Oui, qui fait partie de la Babylone.
Oui, oui. Oui, c'est aussi religieux, tout à fait. Hein. Vatican et autres. Il n'y a pas que le Vatican sur le plan religieux, mais il y a le Vatican, en effet. Le Vatican est loin d'être neutre par rapport à ça. Donc, elle nous prépare à la venue du Seigneur Jésus-Christ, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement, il commence par nous. Pourquoi? Ben, il faut se rappeler, hein, l'Église doit être prête. Le jugement va commencer par nous. Et si l'Église n'est pas prête, comment elle sera témoin de Jésus-Christ aujourd'hui avec le temps que nous traversons, hein? Et le jugement va commencer par nous aussi parce que moi, je crois que le Seigneur viendra enlever son Église. Donc, les chrétiens qui ne seront pas prêts, ben, ils seront laissés derrière. Ça ne veut pas dire que l'Église ne va pas vivre des temps difficiles. Peut-être une fois, j'aurai l'occasion de prêcher là-dessus. L'Église va connaître la tribulation, mais elle ne va pas connaître le jour de la colère du Seigneur. Et des fois, y a un peu la confusion là-dedans, parce que le chrétien, il met la grande tribulation et le jour de la colère, il met tout ensemble. Mais Jésus, il a dit, vous connaîtrez des tribulations, hein, mais ayez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, des tribulations, le chrétien, il en a, des souffrances, le chrétien, il en a. Mais le jour de la colère, moi, je crois que le Seigneur, il sera venu chercher son Église pour ce jour-là.
Mais ça vaut mieux pour nous.
Amen. Donc, le jugement commence par la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, Dieu va venir rechercher son Église. Alors, est-ce qu'on sera prêt pour cet enlèvement? Est-ce qu'on sera prêt pour ce temps où le Seigneur va revenir chercher les siens?
Pour être prêt, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut régler nos affaires selon sa parole.
Marcher droit.
Il faut venir écouter les études bibliques données par le pasteur Alexandre. Je rigole. Mais il faut aimer notre Seigneur, il faut aimer sa parole, il faut être consacré à lui. Ouais.
Puis si on aime sa parole, eh bien on a hâte d'aller se retrouver avec d'autres chrétiens, je trouve.
Amen.
Je pense.
Mais c'est là qu'on
je pense que c'est ça le problème. Hein. Tu dis qu'il y a des chrétiens qui dorment, mais c'est qu'on vit vraiment cette période-là. Quoi. Parce qu'on ne fait pas l'effort de venir, on ne fait pas l'effort d'aller prier, on ne fait pas l'effort de ci, de ça. C'est le gros problème.
Tu voulais dire
ben, voilà.
Non, je sais pas, tu as juste réagi à quelque chose, mais j'ai pas pu comprendre.
Oui, je me...
Ouais, c'est pas grave.
J'ai perdu le mot.
Bref. Donc, préparons-nous. Hein. Je lis juste un texte par rapport à l'enlèvement de l'Église. Vous le connaissez, 1 Thessaloniciens 4, verset 18. « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. » Et le jugement, en effet, commence par la maison du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. » On va passer en jugement, tout chrétien va passer devant le tribunal du Christ, afin de recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps actuel, dans notre corps charnel, dans notre corps mortel. Donc, si nous péchons et que nous demandons pardon au Seigneur et que nous nous repentons, le Seigneur, bien sûr, va pas nous laisser, hein, va pas nous abandonner. Au contraire, il y a la puissance de la croix encore aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui encore, on peut avoir la victoire sur le péché. Aujourd'hui encore, nous sommes justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous demeurons volontairement dans le péché et que nous ne cherchons pas à nous en éloigner, alors là, il est quand même clair qu'on risque, quelque chose. Mmh. Hein? On risque quelque chose. Ouais.
Mais tu viens de dire que les chrétiens seront jugés en premier. Mmh. Mais si le chrétien qui sera jugé en premier, mais s'il appartient à Dieu et qui fait normalement le sacrifice de la croix, c'est justement pour le justifier, mm-hmm. le purifier de ses fameux péchés, mm-hmm. et qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé par lui. Mm-hmm. Alors pourquoi on va passer en haut?
Non, le tribunal de Christ, c'est une chose. Après, le jugement, c'est autre chose. Hein, le jugement des incroyants. Mais tous les chrétiens vont passer devant le tribunal de Christ, mm-hmm. pour voir, pour faire l'état des lieux de ta vie.
Si tu es réellement mal, si tu es réellement converti.
Tu verras ta vie qui va se dérouler, mm-hmm. Où tu verras le bien et le mal qui a eu dans ta vie. Mais c'est pas... Ça peut être une condamnation.
Ah, c'est pas une condamnation, c'est ça.
Non, c'est pas ça.
Ouais,
ouais.
C'est pas du tout ça.
Ouais.
C'est un passage.
Celui qui demeure dans le péché, le chrétien qui veut vraiment rien savoir par rapport à son péché. Moi, je sais pas, par exemple, il adultère. C'est Paul qui dit, mais ne savez-vous pas que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux? Donc, quelqu'un qui nourrit cette vie d'adultère, s'en détache jamais, le jugement il appartient, c'est pas nous qu'on va juger, c'est Dieu qui va juger. Mais c'est aussi Jésus qui dit dans l'Apocalypse de Jean, mais dehors les adultères, c'est des gens qui auront cru et qui seront restés volontairement dans l'adultère sans jamais vouloir régler leur situation. Alors leurs actes démontrent que c'est pas Jésus-Christ qui règne dans leur vie. Parce que si c'est Jésus-Christ, Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est Jésus-Christ qui vit en toi, si tu commets l'adultère, va et ne pêche plus, hein. Repends-toi, demande pardon au Seigneur, et la puissance de la croix va te libérer encore de cela et te donner la victoire sur une telle situation. Et Dieu renouvelle instantanément sa vie en toi. On n'a pas à craindre ça. Mais si volontairement et régulièrement et sans aucune repentance, on commet l'adultère, voilà, moi, comme je le dis, hein, le jugement, il appartient au Seigneur. Mais où est le témoignage? Où est le témoignage dans ton voisinage si tes voisins te voient dans l'adultère? Voilà, celui qui se dit chrétien, il est soi-disant, il est tellement meilleur que les autres, mais il trompe sa femme. Mais même encore aujourd'hui, l'adultère, même dans un couple non chrétien, non marié, même encore aujourd'hui, l'adultère est très mal vu. À part dans les couples échangistes, mais là, c'est encore un autre problème. Hein. Mais dans un couple, entre guillemets, normal, l'adultère, même chez des non chrétiens, est mal vu. Hein. Donc voilà. Alors, si nous persévérons, il y a des récompenses qui nous sont promises, et puis on va essayer de les voir. Est-ce que si en tout d'un coup on déborde un tout petit peu, ça ne vous pose pas trop de soucis ou bien?
Non.
Je ne vais pas faire trop long, mais j'aimerais quand même vous visionner, faire visionner cette vidéo-là. Alors, on va regarder juste quelques points qui nous sont promis si on persévère sur le chemin du Seigneur. Nous recevrons quoi? Premier point, la couronne de la justice. Ça, c'est 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé sa venue recevront la couronne de justice. Tous ceux qui se préparent pour le retour du Seigneur recevront la couronne de justice. Et puis, justement par rapport à la couronne de justice, j'ai une vidéo là qu'on va regarder qui nous parle de la couronne. Mais vous verrez, pour moi, c'est vraiment de l'apostasie. C'est une vidéo qui vient de Hillsong. À la base, c'est une église qui est partie en Australie, qui est très forte dans la louange. Mais là, ils ont fait une vidéo, franchement, pour moi, c'est de l'apostasie. Vous verrez, il y a des femmes qui symbolisent des vierges. Elles sont habillées en blanc avec des voiles. Elles ont une couronne sur la tête. Et il y a une femme en rouge. Vous vous demandez ce qu'une femme en rouge l'a fait. Hein, ça symbolise plutôt le diable. Et il y a, au fur et à mesure que la vidéo avance, alors que le thème de la chanson nous parle de la paix que Jésus donne, donc ce n'est pas un mauvais thème, hein, mais la vidéo qu'ils ont fait autour, c'est vraiment un peu bizarre. Et c'est pour moi l'esprit du monde. Il y a... À un moment donné, il visionne une des femmes qui chante, mais vraiment, il visionne la bouche de manière très proche. C'est vraiment, c'est de la sensualité. Ça n'a plus rien à voir avec du christianisme. Il y a une femme aussi habillée en blanc avec un short très moulant. Je ne vois pas tellement ce que ça vient faire dans l'église, tout ça. Mais on peut regarder. Et puis, vous verrez, ces femmes en blanc qui symbolisent les vierges, elles perdent leur couronne. Mais ça va contre les valeurs bibliques, parce que si tu persévères jusqu'à la fin, hein, prends garde que personne ne dérobe ta couronne, hein. Et puis là aussi l'apôtre Paul qui dit mais on recevra une couronne de justice m'est réservée.
Donc, mais là, dans le contexte, ça veut dire quoi, les couronnes qu'elles perdent?
Ben, on regarde la vidéo. Hein, et puis, mais c'est pour moi, c'est anti-biblique. Parce qu'un chrétien, il ne doit pas chercher à perdre sa couronne. Je ne sais pas si c'était parce qu'on dépose les couronnes devant Jésus, d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. On peut regarder et puis on peut en parler.
Ce n'est pas les 10 vierges?
Non. Ben, ça pourrait un peu symboliser ça.
Tu vas aller là-bas, là.
Je voulais juste poser.
On va aller plus près dans le chapeau.
Merci. Non, merci. Ouais, ouais.
On vient plus près.
C'est égal.
Oh, oui, parce que moi ici je ne vois rien.
Ah, tu vois rien du tout.
Ah, ouais, t'es déplacé. Okay. Attendez, je rallume.
Attends. Tu vois?
Ça.
Voilà. T'arrives à voir, Anna, ça va?
Alors,
je, si je me mets là-bas,
j'ai...
je crois que ça ira.
Ouais, ça ira.
Ok. Ah non, mais ça
déforme
l'écran, en fait.
De faire le système, là. Ah oui, trapèze et tout, ouais, d'accord. Okay.
Ah, ça tombe.
C'est pas ça. Ah, mais je comprends. C'est-à-dire que s'il est trop précis, on n'avait plus. Mais c'est pas grave, il faudrait le mettre plus loin, puis ça a grandi automatiquement.
Ouais, ouais, ça a grandi, ouais.
Ça a grandi automatiquement.
Alors, je vous lance la vidéo.
Alors, on est ici.
Voilà. Hop. Alors, je reprends là l'enregistreur, parce qu'après, on arrêtera peut-être là-dessus. Je sais pas, hein. Est-ce que vous avez... ça vous parle, hein, non, une vidéo non, comme ça?
Ça me montre totalement qu'on est complètement à côté.
On est dans la pensée du monde.
Il y a l'idée, effectivement, tu vois, la sensualité de la femme, ouais. Même la main, même la main, la main à travers le voile, tu vois, la main de la femme, qui est quand même suggestif. Le short ultra court.
Ouais, moulant en plus.
Où est-ce que tu vois ça dans une église?
Même toi, il faut montrer le buste.
Et puis en plus de ça, après, il y a un moment donné où tu vois un flash, où tu vois une fille qui a les lunettes avec Faites l'amour, pas la guerre, des années 68.
Ah, j'ai pas vu.
Oui, avec la croix à l'envers.
Avec la croix à l'envers.
Les deux trucs, le machin.
Ah oui,
Faites l'amour, pas la guerre. Ah, ouais. Ça veut dire quoi là?
Ah, il y avait ce logo là.
Ouais, exactement.
Ah,
c'est totalement
sataniste. Ah non, mais c'est grave, ça j'ai pas vu.
On voit les images.
Ah, c'est
totalement.
Je sais pas
si c'est l'envers, j'ai pas écouté.
Ouais, c'est ça, on le voit derrière.
On
le voit même deux
les,
fois.
Les paroles de la chanson sont très bien. Hein.
Ah, elles chantent bien. C'est presque subliminal.
Mais, ouais, bah il y a quelque chose comme ça.
C'est bizarre, c'est lumière sur les. Moi, ça me fait plus penser à la magie.
Quand vous voyez Madonna qui se la joue grande sorcière, hein, que, je ne sais pas si vous avez vu certains de ses clips où elle a les cornes carrément de Belzébuth, là, comme ça, habillée tout en rouge, mais c'est vraiment la sorcière. Et je pense que des fois, elle doit faire des rituels sataniques, cette femme. Ce n'est pas possible qu'elle mette en avant un tel théâtre. Elle doit pratiquer certaines choses, cette femme, certainement. Eh bien, elle est habillée en rouge comme cette femme-là qui chante. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre une toute autre musique avec des toutes autres paroles. Et puis, ça ferait déjà le bon clip visuel pour une chanson du monde.
Mais le but recherché, c'est quoi de cette organisation chrétienne? Il n'y a aucun but à voir là. Parce qu'elle est complètement à contre-pied. Quel est le but? Parce que si tu fais ça, et tu passes ça tout en disant c'est toi qui mets ça en scène, mais quel est le but qu'ils recherchent? Ils se contredisent à la base, puisque
c'est des comme le monde.
Ils sont des groupes de louanges, tu dis. Ils sont très forts dans la louange. Ils montrent une chose. C'est un paradoxe.
Ça fait quelque chose qui va.
Ça me fait penser à une chose là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir sur le mail.
J'ai vu, mais
il y a quelqu'un qui disait qu'il mettait en avant un pasteur qui disait que finalement, où se trouve le Seigneur dans une église, c'est où les gens chantent mal.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que ceux qui chantent mal, c'est des nouveaux convertis qui viennent qui donnent à cœur joie.
Ouais, que Dieu aimait les églises.
Tandis que les églises qui chantent parfaitement bien, des orchestres parfaitement extraordinaires. On le dit déjà, hein, c'est pas forcément parce que t'as une musique extraordinaire avec de la batterie et tout ça que l'esprit du Seigneur est forcément dans les gens qui chantent comme ça, quoi. Ça c'est la petite histoire un peu rigolote, mais c'est vrai.
Donne un exemple de but que je cherche.
C'est une église qui a produit cette vidéo. Cette église s'appelle Hillsong. C'est une église qui est très connue aujourd'hui par les jeunes, ou les jeunes de ma génération aussi. Et puis, certains des chants qui sont dans Jem, certains viennent de Hillsong. Mais si on écoute les paroles, il n'y a rien à dire. Ce que j'ai compris, il n'y a rien à dire.
C'est là qu'il faut avoir du discernement. Ouais. Tu vois ça, parce que tu dois faire la part des choses entre les deux choses. Quoi. C'est pas forcément le texte qui dit qu'il va être.
Moi, je croyais que.
Quel est le but? Ouais, c'est chercher à donner tout ça.
Voilà, c'est ça qui est interrogatif.
Comme tu dis, dans quel but est-il là?
Voilà, c'est ça qui est de plus en plus,
quoi, ça arrive.
Mais pour finir. Mais pour finir, on arrive dans l'esprit du monde. Ouais, parce que voilà, on veut plaire au monde. C'est un clip, vous faites visionner à un non-chrétien, il va se dire, ah ouais, cool, c'est sympa.
Ouais. Pour attirer les non-chrétiens.
Moi, j'ai vu un autre
clip. Pour attirer les non-chrétiens, mais ça me donne pas vraiment la paix que je vois ce truc.
Non, alors moi, non plus.
Non, justement.
Dans le contenu
image.
Il y a une
espèce de...
Sans sensualité, mais c'est très bien.
Mais il y a
quand même quelque chose au niveau de la sensualité. C'est en effet, c'est pas grossier comme les vidéos actuellement.
Non, mais puis ils ont pris des pin-up, ils n'ont pas pris des.
Ah ben, merci.
Mais c'est ce qu'on a pris, je ne sais pas où. Hein.
C'est pas
des caissières de chez Dana. Bon, il a des jolies aussi, mais.
C'est
pas de pub, s'il vous plaît.
À mon sens, on n'est pas dans la même. Même si on veut jouer des hyper modèles, qui ne veulent pas jouer deux jeux, là, je ne peux pas.
Mais voilà, hein, parce qu'on parlait de l'Église qui est dans la tradition, dans l'apostasie. Alors là, pour moi, on y est. Hein, en tout cas, au niveau de l'image, le contenu de l'image est vraiment hors sujet, hors pensée du Seigneur. Et parce qu'on doit se réjouir qu'un jour, cette couronne incorruptible nous sera réservée. Hein.
Est-ce qu'il y a une Église qui veut ça, ou alors elles sont toutes comme ça là-bas?
Ça c'est une église qui marche très bien à l'heure actuelle, qui c'est vrai, qui donne des très bonnes louanges aussi. Mais on voit qu'on doit faire attention, parce qu'à vouloir faire toujours un show de plus en plus spectaculaire, on risque de s'approcher du monde. Et moi j'ai vu une autre vidéo, ils faisaient une louange en plein air, là, de Hillsong. La femme, elle était cheveux quasi, je veux dire, même moi, quand j'ai le casque, on était aussi court. Elle avait une boucle dans le nez. Moi, je me dis, mais... ouais.
C'est de la déviance.
C'est, ouais, pour finir, c'est vraiment, c'est la pensée du monde qui imprègne l'Église, et il n'y a plus la recherche d'une consécration, d'une mise à part pour
cette consécration du monde. Excuse-moi, c'est peut-être aussi pour attirer justement des gens.
Ils vont se convertir à un faux christianisme.
Voilà, exactement.
Il y avait marqué Hillsong, oui. Young and Free. Donc, c'est des jeunes qui se sentent libres.
Voilà.
Libres.
Libres de quoi, ouais.
Libres,
ouais. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a cette mouvance-là. C'est pour ça que. C'est pas les grandes églises, eh ben, ça me fait penser à Chan, le pasteur Chan, qui est comme ça connu actuellement, qui avait une église de 5000 personnes aux États-Unis, à Los Angeles, et c'est un homme alors excessivement rigoriste. Hein. Eh ben, il a entendu dans cette église qu'il y a un gars qui était dans un gang, et puis qui s'était converti comme ça, mais qui est ressorti. Parce qu'il a dit, mais moi je ne me retrouve pas je ne retrouve pas l'esprit de. Enfin, je ne vois pas le Seigneur Jésus que vous annoncez dans cette grande église, parce qu'il se sentait complètement isolé. Du coup, ce qu'il a fait, ça lui a fait prendre conscience qu'effectivement, les grandes churches, les méga churches, eh ben, il y a un gros problème là-dedans. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent, mais ce n'est pas forcément des gens qui se convertissent ou qui sont convertis. Et puis en plus de ça, au contraire, c'est des gens qui sont en recherche, qui partent parce qu'ils ne trouvent pas le Seigneur là. Mm-hmm. Du coup, il s'est mis à faire des toutes petites entités, de maisons, etc., des petits groupes, pour que des gens ce gars du gang se retrouvent dans une famille, comme il disait, parce qu'il parlait justement qu'il trouve mieux sa famille dans le gang, que voilà, c'est ce qu'il disait, mieux dans le gang, il se sent beaucoup mieux aimé dans le gang que dans cette église. Donc ça lui a fait prendre conscience là. Donc c'est pas pour dire qu'il faut tout mettre les méga churches dans le même panier, mais d'un autre côté, ça montre que...
Non, mais il y a un danger à force de vouloir plaire. Ben en fait, on met plus le Seigneur en premier, et puis on s'éloigne de sa parole, et on rentre dans plein de compromis, et puis on glisse gentiment mais sûrement dans l'apostasie.
C'est ce qui fait aussi que les églises où on a connu ces mouvements, où tu avais des églises, même comme ici, qui étaient quand même assez prospères et plein de jeunes et tout, et tout à coup les jeunes disent « Ah, mais ça ne nous plaît plus », puis les parents, ils marchent complètement dans l'histoire, et puis ils vont quitter l'église parce que les enfants, ça ne leur plaît pas. Et là, tu vois vraiment qu'on est aussi dans cette mouvance d'aller voir où ça plaît. Ailleurs, pour les enfants.
Pour les enfants, mais nous, on a eu une époque quand on était sur un enfant, les 70-80. Certains qui nous ont quittés ici, dans le comité aussi. Pour les jeunes, soi-disant, c'était mieux ailleurs. Vous croyez que c'était mieux ailleurs? Quand on sait comment ils ont terminé,
certains.
Mais après, quand c'est le président Barre qui avait repris, on était une église de 70-80 avec les Italiens à peu près. Mais il y en a combien, Suisses et Italiens mélangés? Mais il y en a combien qui sont partis parce qu'il n'y avait pas ça? Pourtant, on était environ 20, entre les garçons et les filles, il y avait à peu près 20 de tous les âges.
Puis la sœur Brun aussi, qui a fait beaucoup.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu aller ailleurs, à cause des enfants, soi-disant. Mais ailleurs, ce n'était pas meilleur où ils étaient. Et figure-toi qu'à l'époque, on était une vingtaine de jeunes. On n'était pas comme maintenant, on est une dizaine maintenant. C'est tous des garçons, à part une fille. Mais avant, on était une vingtaine de garçons et filles. Non, mais les parents, soi-disant, ils ont quitté le poste de responsable. Et ils ont été ailleurs.
Une bonne excuse.
Soi-disant, à cause des enfants. Et après, on a appris que les enfants, ils ont tourné...
C'est tristement un peu l'époque que nous vivons, parce que l'Église manque de discernement. L'Église se laisse imprégner dans une ambiance, comme ce clip, hein. On va se laisser imprégner dans une ambiance, au lieu d'être de chercher et d'être convaincu par la présence du Saint-Esprit.
Exactement.
Et la présence du Saint-Esprit, on va la ressentir dans une église. On doit rechercher cette présence du Saint-Esprit aussi durant nos cultes. Mais le problème, si on fait de la louange un énorme spectacle, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire une louange pleine de vie, plein d'entrain. Il peut y avoir plein de types de louanges différents. Hein. On n'a pas besoin de faire ça avec un orgue pour que le Saint-Esprit soit là. J'ai rien contre les orgues.
Non, mais il faut chanter mal.
Voilà, il faut chanter mal. Mais si on met trop l'accent sur quelque part l'extérieur au lieu de l'intérieur, ouais, là on est en danger. On doit chercher cette communion, l'Église doit chercher cette communion avec le Saint-Esprit. Mais ça se fait simplement par une vie de persévérance dans la prière et dans le cheminement avec le Seigneur.
Non, parce que ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça représente... Quand on regarde ça, ça fait penser TF1 quand ils font une fois par année Miss France.
Ouais, oui.
Une fois en maillot de bain, une fois en voile léger. C'est une représentation avec toutes les belles filles de toutes les provinces de France pour gagner le titre de la couronne. Ça fait un peu Miss France.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Ça
ne
fait pas église, j'entends.
Non, ça ne fait pas église, non. L'image, la caméra est constamment fixée sur la bouche ou sur.
C'est ça. Ah oui, la bouche, c'est quand même sensuel.
Le but recherché réellement, c'est quoi? On voudrait bien leur poser la question, on veut bien le savoir ça. Quel est le but réel recherché par ces gens?
Une telle vidéo.
Voilà, c'est ça la question. Quel est le but qu'ils recherchent avec ça? Quel est?
Ben, de vendre leur CD.
Ouais, ou
de
trouver
de l'écharpe. Je sais pas, je veux pas les juger, hein, mais.
L'écharpe américaine.
Mais le message qu'ils donnent, c'est quel message qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'on peut retirer comme message? Même s'ils veulent vendre leur.
Les paroles, elles sont
pas mauvaises. À un moment donné, j'ai pas tout écouté, mais à un moment donné, elle dit même dans le chaos, Jésus vient, elle me donne sa paix. Je sais pas si c'est formulé exactement comme ça. Mais le contenu des paroles, bon, je pourrais aller regarder sur Internet. Il me semble que le contenu est pas mauvais, mais c'est la vidéo qu'ils en ont fait là autour.
C'est la présentation.
Oui, aussi une chose, c'est qu'ils montrent en deuxième plan ces flashs-là. Le reste des flashs, pour les prendre comme quelque chose qui dit, ils veulent dire que c'est mauvais. À ce moment-là, ça voudrait dire que la personne qui allait faire l'amour par la guerre, c'est mauvais. Ou bien, est-ce que c'est inclus dans le bien de l'image en général? Ce qu'ils ont mis là derrière.
Par rapport aux paroles qu'ils disent.
Par rapport aux paroles qu'ils disent.
C'est ça qu'il faudrait savoir. Entre les paroles qu'ils disent. Entre les paroles qu'ils disent et la présentation
derrière. Et puis qu'ils veulent montrer.
Ça, c'est possible, en effet. Il ne faut pas voir le mal partout.
Voilà. Mais c'est pas la réalité.
Mais bon, il y a quand même un peu un souci avec cette vidéo. Et puis, pourquoi j'ai appris? Parce que simplement, c'est Paul qui nous disait, hein, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc, on n'est pas appelé à faire tomber votre couronne.
Ouais,
hein.
C'est déjà ça.
Prenez garde, hein, que personne ne vous dérobe votre couronne. Donc voilà, et cette vidéo va à l'encontre des Écritures.
Pourquoi nous avoir montré cette vidéo?
Vas-y, viens de le dire. La question de la couronne.
Pourquoi? Parce qu'on parlait de la couronne. Hein. Paul qui disait cette couronne m'est réservée. Hein. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
C'est pas la même couronne. Ça.
Ben là, on voit qu'elle la perd. Donc ça va contre sens des valeurs bibliques. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans l'Église, veillons. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est l'Église évangélique, c'est pas l'Église catholique qui fait un bip comme ça. Hein. Ça c'est l'Église évangélique charismatique, une de celles qui marche le mieux à l'heure actuelle. Donc, veillons, soyons vigilants aujourd'hui, parce que l'esprit du monde rentre de plus en plus dans l'Église. Et ne soyons pas surpris, hein. On parlait d'apostasie, ben, on voit bien que l'apostasie grandit dans l'Église aujourd'hui.
Et ça ferait perdre la couronne.
Alors, c'est dans le cadre d'un album de Noël, ça s'appelle « C'est le projet pour la paix » et ça a été fait pour avoir la paix et la sérénité dans toutes les nations. Et puis, il y a d'autres types de chansons, tenez-vous bien. Attends, je les ai vues avant. Ouais, ça fait peur.
Joy to the world. Joie du monde. Joie au monde.
Joie
du monde. Enfin, je sais pas. Hein, après, arc, je sais pas ce que c'est. Seasons. Pas grand chose à voir avec des choses chrétiennes comme titre. Hein,
Ouais, des fois, il y a quand même la confusion qui vient. Oh. Et puis, si on n'est pas bien basé sur l'écriture, on peut se laisser embrigader. Un jeune chrétien qui regarde ça, qui vient découvrir le Seigneur, il pense que ça, c'est la pensée du Seigneur. Et puis, il se laisse imprégner d'une telle vidéo. Il y a quand même un message, pas direct, mais indirect, qui va faire que, au bout d'un moment, on peut se compromettre. On peut rentrer dans le péché, c'est pas grave. On sait pas tout le message qui peut être véhiculé.
Surtout quand on est jeune chrétien.
Ils veulent promulguer la paix, mais quand la Bible dit paix, une sous-destruction viendra sur la terre, on est aussi dans cette mouvance-là.
Ouais, ouais.
À force de vouloir dire paix sur la terre, qui est l'harmonie sur la terre et tout.
On veut être bien vu par la société, donc on tient un discours bienveillant aussi face au monde.
Exactement.
On dénonce plus le péché, etc. etc.
Enfin, voilà. Mais ça revient sur le thème qu'on a abordé ce soir complètement, sur la question de qu'on doit prendre position, nous, en tant que chrétiens, mais quand l'occasion se présente, bien entendu, et puis pas avec des pancartes, comme tu disais, mais par contre, ayant le courage, moi le premier, si je me sens pris par une mouvance ou quoi que ce soit, d'oser dire la vérité que j'ai en moi, que je crois vraiment. Ne pas avoir peur de la cacher sous le boisseau. Quoi.
Ça va plus loin, c'est dans le cadre d'un projet de paix de l'Everest. Donc il y a plusieurs trucs culturels. Donc ça veut dire qu'il y a c'est bien ça, il y a un peu toute mouvance.
Ah ouais, faudrait que j'aille regarder. Moi, j'ai pas été voir plus loin, j'ai vu cette vidéo. Puis, vu qu'on parlait de couronne, je voulais vous la proposer.